Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans. Avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Nicolas Martin, deux fois vice-champion du monde de trail. On a évidemment parlé d'entraînement, de volume, d'intensité, d'entraînement croisé, mais aussi de musculation. Enfin, on a abordé la vie autour avec notamment la réponse à la question « Peut-on vivre du trail ?» Bonne écoute. Salut Nico, alors comment ça va aujourd'hui?
Salut Rudy, ça va. Belle séance d'entraînement ce matin et repos cet après-midi.
C'est quoi une belle séance d'entraînement?
Ce matin, c'était un petit défi, il y a deux parties dans la séance, un petit défi pour les gens à l'occasion de la sortie d'un produit chez Brooks, une chaussure de trail plutôt courte distance. Donc le défi, c'était 500 mètres à faire de dénivelé positif le plus vite possible. Bon, j'étais pas trop à la maison, du coup j'ai fait quelques erreurs de parcours, c'est pas un chrono injouable, mais du coup ça sera sympa pour les gens. Et donc c'était 500 mètres de D+, et puis après c'était 200 mètres rythme course, donc un peu sous le seuil 2, 100 mètres vers le seuil 1, et puis de nouveau 200 mètres au rythme de course. Bah, en ce moment, je prépare plutôt des courses courtes distances pour reprendre l'activité après ma blessure. Donc, je prépare une course de verticale et puis championnat de France de course en montagne, qui sont des efforts qui sont entre 45 minutes et une heure. Donc, je fais plutôt des séances à haute intensité.
C'est assez court pour toi, non?
C'est pas du tout mes formats de prédilection, même si c'est des formats que j'ai toujours bien aimés. Mais il y a un moment où, quand t'es athlète de haut niveau, faut faire ce que t'aimes, mais aussi ce où t'es bon. Et donc moi, j'étais un peu meilleur sur des efforts plus longs, donc je plus fais ça. Mais j'ai toujours bien aimé la course en montagne. Quand j'ai eu l'occasion de pouvoir en faire, j'en faisais parce que c'est aussi un peu plus sympa. C'est des, tu te fais mal, mais genre t'as pas l'impression d'être complètement défoncé pendant 3 jours après, comme c'est le cas quand tu fais des trails un peu longs. Donc ouais, c'est des efforts d'une heure. La verticale, c'est ça va être dans le Semnoz, en gros, ça part de Sevrier, puis ça arrive au domaine de Nordique sur le Semnoz. Donc ça va être sympa. Tu fais une course un peu en entraînement, et puis si tout va bien, j'irai faire une grande classique sur le format Marais Trail qui est Zegama du côté du Pays Basque, qui est une course où il y a une ferveur énorme. Mais bon, moi, vu que j'arrive sur la fin de ma carrière et que c'est pas forcément facile d'avoir des dossards là-bas, je me suis dit, allez, je profite au moins de la fête. On verra si je suis compétitif, mais c'est aussi les émotions dans le sport qui m'ont quand même pas mal guidé, donc je sais que ça va être sympa.
Justement, j'allais te poser un peu cette question. Là, tu vas faire des efforts assez courts, et on entend pas mal dernièrement que faut pas avoir peur parfois de s'éloigner de la spécificité de sa discipline pour aller chercher des adaptations qu'on n'aurait pas fait. Est-ce que toi, tu ferais ça aussi en ce sens ou pas du tout?
Ouais, si, complètement. En fait, là, l'idée, c'était de travailler sur la partie haute du spectre d'intensité, donc la partie développer le physio, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est pas du tout des objectifs, ces courses-là. Mais par contre, ça fait une motivation pour aller faire les séances un peu dures d'intensité en me disant, voilà, pour éviter de prendre une trop grosse claque sur les courses. Moi, j'ai toujours bien aimé quand même ce côté faire des courses qui étaient aussi adaptées à de l'entraînement que tu avais. C'est-à-dire l'hiver, tu fais souvent moins d'heures parce que c'est un peu moins agréable d'aller dehors. Et tu fais plus du cross, par exemple, ou des efforts courts. Et puis après, quand c'est les grandes sorties, tu fais plus du trail long. Mais oui, en fait, quand tu veux progresser, il y a un moment donné, tu as des qualités fortes et puis tu as des points faibles. Et après, c'est toujours ça la question. C'est est-ce qu'il faut entretenir les points forts ou est-ce qu'il faut développer les points faibles? Je pense qu'il faut savoir faire un peu les deux. Donc j'ai une longue période d'arrêt. Donc forcément, mes valeurs physiologiques ont baissé, donc je refais de la haute intensité pour essayer de redévelopper ça, et du coup je fais des courses qui sont en adéquation avec ça, ce travail-là.
Et est-ce que tu penses qu'à 38 ans, avec ta longue carrière sur laquelle on va revenir après, tu peux encore gagner, justement, je caricature pour les spécialistes, mais au niveau de ton deuxième seuil, je crois que tu peux encore l'augmenter?
Non, je pense que je peux pas, je peux plus vraiment l'augmenter. Après, quand t'arrives, quand t'as eu un peu des résultats comme moi, tu sais aussi que si tu reviens à ton meilleur niveau, c'est déjà pas si mal. Donc c'est plus dans cette démarche-là. Après, je suis pas trop chiffre. Je suis quand même beaucoup dans le process, c'est-à-dire mettre des choses en place, tester des choses. J'ai parlé là, par exemple, j'ai changé, alors je sais pas si ça va être long terme, mais d'entraîneur c'est dernièrement pour voir des nouvelles méthodes, pour essayer d'autres choses, pour voir bah voilà, mettre des nouveaux stress, même si ça a toujours été la qualité de mon entraîneur Patrick Bringer de savoir se renouveler. Mais voilà, c'est aussi l'exploration de mon corps pour moi, mais aussi comme je suis coach en parallèle, pour tester des choses aussi pour les autres, pour voir, se dire tiens, ça a l'air de marcher, de faire ci, ça, et de pouvoir avoir une plus grande palette pour aider les autres aussi, quoi.
C'est quoi cette blessure que tu as eue?
Alors j'ai une c'est en partie congénitale, j'ai une patella bipartita, donc
Qu'est-ce que
là
c'est?
c'est une rotule qui est la rotule, c'est un os qui est en deux ou trois parties quand tu es adolescent et qui est censé bien souder. Et chez 2% de la population, à peu près, t'as des fois, ça se soude mal. Donc, au lieu d'avoir l'os qui est vraiment soudé, puis faire plus qu'une seule partie de rotule, ça fait deux morceaux de rotule avec un pont un peu fibreux et cartilagineux. Et avec, je pense, l'activité quand même traumatique du trail, ça, c'est devenu sensible dans cette zone. Donc, en gros, ça fait une inflammation sur la face antérieure du genou et une douleur. Et alors après, quelle est la poule, quel est l'œuf, on sait pas trop, mais du coup, ça a entraîné une perte de force principalement du vaste médial. Et du coup, bah, comme j'étais moins fort, j'encaissais moins les chocs, donc la rotule, elle devenait de plus en plus sensible, donc ça a été un peu un cercle vicieux. Pendant un an ou deux, j'ai géré ça, et puis l'année dernière, ça a flambé au championnat du monde, vraiment plus, où j'ai plus pu m'entraîner, et il a fallu faire énormément de rééducation, pour récupérer le facteur nerveux, notamment de pouvoir nouveau activer ce principalement ce face médial qui, voilà, on le voyait sur le MG, arrivait pas du tout. Par exemple, si je mettais une charge à la presse jusqu'à un certain degré, enfin jusqu'à un certain poids, ça va, mais il n'arrivait pas à s'activer plus pour plus de poids. Et du coup, principalement en excentrique, en descente, c'était devenu douloureux. Là, c'est pas encore parfait, mais en tout cas, c'est plus réactif. Ça peut l'être un tout petit peu à l'activité, mais ça, c'est pas chronique comme ça a pu l'être. Donc, voilà. Après, j'ai aussi maintenant une démarche plus de respect vraiment de mon corps et de pas aller refaire flamber. Et je ferai les courses aussi. C'est pour ça que je fais du court, parce que c'est quand même moins traumatique, ce que mon corps me permet de faire. Et bon, à 38 ans, faut aussi accepter que ton corps peut-être plus te permettre de faire ce que tu faisais les années d'avant, mais je suis resté en paix, en tout cas, psychologiquement avec ça, quoi.
Tu dis que tu as pu gérer pendant un an ou deux cette douleur, c'est-à-dire que tu faisais comment?
Bah, j'ai couru en ayant quand même une gêne au genou tout le temps. J'ai eu une période au début, en fait, au début, on pensait que c'était pas vraiment ça, donc on n'avait pas trop d'explications que ça puisse être juste ça qui me créait cette douleur. Une première fois, j'ai eu une infiltration. Derrière, je me suis reposé, je me suis réentraîné, et après ça, j'ai réussi à faire vice-champion du monde, c'est plutôt bien. Et je pense que derrière, j'ai pas assez mis l'accent sur le renfort, et du coup, c'est je pense qu'à l'activité, elle est quand même traumatique, et ça réveille la sensibilité. Quand ça réveille la sensibilité, bah ça inhibe le musculaire. Donc il faut, je pense, il faudra toujours que je fasse beaucoup plus de renfort quand même spécifique sur la zone maintenant, pour éviter de rentrer dans un cercle vicieux. Et puis ouais, après je m'étais habitué à courir en ayant un peu mal. Et puis bon, le problème des gens d'endurance, c'est que quand tu leur dis t'as mal à combien, hein, ils enlèvent deux ou trois par rapport à la population moyenne. Mais ouais, avec le recul, je m'arrêterai avant d'avoir eu ces sensations pour pas aller aussi loin que ce que je suis allé. Mais ouais, j'étais un peu pris par t'es vice-champion du monde, t'es resélectionné, il y a un championnat du monde, ça s'était enchaîné assez vite. Et ouais, je suis reparti là-dedans, et en plus, le parcours était vraiment très traumatique. Les derniers championnats du monde, beaucoup de descentes très raides avec beaucoup d'excentriques où fallait freiner fort. Et par rapport au championnat du monde d'avant, qui était un peu plus roulant, entre guillemets, je pense que c'était trop, j'avais quand même des vrais doutes avant le départ si ma rotule, elle allait tenir 6000 mètres de D-, et elle en a tenu 4500. Et puis, en plus, je suis tombé dessus le jour de la course. Et ça m'a fait grimper encore la douleur de deux ou trois. Et derrière, bon, c'était un peu trop, ça m'a arrêté 6 mois, quoi.
L'infiltration n'a pas suffi à calmer la douleur.
Bah, la première fois, ça a bien marché. Je me suis refait infiltrer une deuxième fois. Après, je pense que ça a été une petite erreur. J'ai pas fait exactement le même produit et ça a vraiment pas marché la deuxième fois. Après, moi, on m'a dit, c'est que des fois aussi, les infiltrations, ça marche une fois et puis pas trop la deuxième fois. Après, j'ai pas voulu en refaire, et parce que c'est pas aussi sain d'aller cacher la douleur. Si ton corps, il a une inflammation, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, une fois pour faire baisser l'inflammation ou deux, ça peut avoir du sens. Mais voilà, quand à la deuxième, elle a pas marché, je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je suis allé voir aussi un chirurgien parce que potentiellement, ça peut s'opérer, mais il y avait pas du tout de consensus. Enfin, globalement, on m'a dit, sans trop consulter précisément, faut pas opérer. Parce que il y a pas des bons retours dessus. Après, quand je suis allé voir un chirurgien, le chirurgien m'a dit, ouais, bah si t'arrives pas à te réentraîner, je t'opère. Mais tu vois, c'était en mode, je sais pas si tu pourras recourir quoi. Moi, j'ai dit bon, bah s'il faut faire un an de renfo spécifique, on fera un an de renfo parce que en fait, bon, j'aime bien la compète, mais j'aime avant tout faire du sport et donc moi, j'ai envie de pouvoir courir encore dans 10-15 ans. Donc voilà, si je peux refaire du haut niveau, j'en referai, mais c'est pas non plus une fin en soi quoi.
Là, comme c'est congénital, de ce que je comprends. C'est un truc à vivre, de toute façon. Est-ce que tu penses que le renforcement, dont on parlera peut-être après, va te permettre de tenir
on verra après. Je pense que ça suffira pour que je puisse courir 10, 15, 20 kilomètres de temps en temps. Tu vois, après, là, la pratique d'un athlète de haut niveau, c'est quand même pas... c'est pas. Enfin, tu vois, si demain, j'arrête de faire du sport de haut niveau, je continuerai à courir ou à faire du vélo, mais ça sera pas non plus sur les volumes que tu fais quand tu es un athlète de haut niveau. Et là, en tout cas, ma pathologie, elle tient sans problème pour faire du sport santé, une dizaine d'heures d'activité dans la semaine, ça passe quoi. Après, faire 20 heures et surtout faire 20 heures avec une notion de performance, c'est-à-dire descendre le plus vite possible, ça, je sais pas si c'est capable. Mais là, ça fait 2-3 semaines que je fais 20 heures d'entraînement et j'ai pas de douleur, donc je pense que ça peut tenir. Mais ce qui est sûr, c'est que j'irai pas forcer, mettre une douleur juste pour me dire tiens, il y a un objectif quoi.
Est-ce que c'est, je sais pas comment dire, mais c'est un peu comme un deuil, tu vois. À un moment, il y a 2 ans, t'étais sur le toit du monde, on va dire. Tu vois, t'étais sur le toit du monde, tout ça. Et là, t'es sur un truc où finalement, c'est plus sport santé et tu peux accepter, de ce que je comprends, de pas revenir à ton niveau et t'entraîner moins.
Bah, j'ai toujours envie d'essayer. Après, par contre, j'ai pas envie d'essayer au prix de repasser 6 mois sans m'entraîner parce que je pense que j'ai jamais été un grand compétiteur. C'est-à-dire que j'ai fait de la compète parce que merci mes parents, j'avais la génétique pour faire du trail à haut niveau, mais j'ai mis longtemps de pratique en fait avant de faire du sport. C'est-à-dire que je me suis mis à courir, j'avais 15 ans et jusqu'à 24 ans, j'ai quasiment jamais fait de compète. Et j'ai avant tout là, je me suis rendu compte, on était arrêté, que ce qui a été dur, c'est pas du tout de ouais, je serai plus jamais l'athlète que j'ai été. C'était tain, mais je peux pas aller courir une heure sans avoir mal. Et ça, c'est les seuls moments où c'était dur. Tu vois, une fois, j'étais allé courir 25 minutes, j'ai une douleur à 8 sur 10 et je me suis dit, mais ça se trouve, tu pourras plus jamais recourir ta vie. Et ça, c'était beaucoup plus dur à vivre que, ouais, tu peux pas refaire de résultat. Tu vois, là, je vais aller faire la verticale dont je parlais. J'en sais rien, je vais faire 25e. Alors qu'il y a 2 ans, t'es vice-champion du monde. Mais en fait, c'est juste, je vais voir les gens que j'aime bien et tout que je connais. Je vais courir, je vais me donner le meilleur de moi-même. La place, on s'en fout, quoi. Enfin, moi, je fais ce que je peux. Je m'entraîne relativement dur encore. Mais c'est pas, je pense que j'ai pas du tout besoin de reconnaissance par la performance, quoi. C'est ça et ça. Quand je suis redevenu vice-champion du monde, il y a quand même une boucle qui s'est bouclée, quoi. Je me suis dit, ouais, tu l'as pas fait juste une fois. C'était pas juste un coup de chance. Tu l'as refait 6 ans après. Quand personne t'attendait, j'ai laissé ma place au championnat d'Europe parce que j'étais blessé, que je savais que j'allais pas pouvoir être à 100%, donc j'ai laissé ma place en équipe de France. Je suis revenu limite pour prendre la sélection parce que j'ai fait la course sur une course de l'UTMB, l'OCC, c'était 6 heures, j'avais pas couru long. Je suis parti tout derrière, tu vois, 30e au début, tout le monde m'a dit mais comment t'as pu faire ça et tout. Je leur ai dit bah en fait moi au début je fais ma course, c'est avant tout ça, je le dis souvent aux gens, c'est que avant de réussir, faut réussir sa course personnelle. Battre les autres, c'est secondaire. Le seul moment de cette course-là où je me suis dit, faut que je batte quelqu'un, c'est quand j'étais avec un Français et que je me disais, là, c'est la sélec qui joue. Bah là, effectivement, je me suis dit, voilà, faut que je lâche Antoine, faut que je lâche Antoine. Mais c'est le seul moment où j'ai couru par rapport aux autres. Tout le reste du temps, si je voyais les autres qui me doublaient, ça me faisait rire. J'ai dit, ah, les gars, dans 2 heures, on verra où vous êtes, tu vois. Et après, au championnat du monde, bah là, je suis arrivé, par contre, dans une mentalité où j'ai eu ces super sensations. Là, j'avais vraiment la mentalité de compétiteur. Les 3 jours avant, je me suis conditionné mentalement. Il y avait eu 2-3 forfaits, tu vois, je connais vraiment bien le milieu, donc je connais les qualités des gens. Moi, j'étais au départ, je me disais, de toute façon, on est 4 mecs pour jouer 3 médailles, voilà, faut gagner une médaille, quoi. Et du coup, quand je suis arrivé, il y a vraiment eu ce truc de, ouais, ça y est, tu vois, je l'ai refait une deuxième fois, même si c'est pas les plus grandes courses du monde dans notre sport, être, deuxième, c'est le premier des perdants, mais tu vois, si 10 champions du monde, ça reste 10 champions du monde, et 2 fois dans une carrière, c'est quand même pas mal, et j'étais vraiment en paix par rapport à la partie compétitive de ma discipline. Et bon, après, continuer à faire des compètes, mais plus pour soi que pour les résultats, quoi.
T'as été blessé combien de temps? Pendant combien de temps t'as pas pu courir?
Alors, j'ai jamais été arrêté à 100% parce que vu que c'est quelque chose qui est pas invalidant à 100%, mais pendant quand même de la dernière course que j'ai fait, mais j'étais déjà pas plus vraiment entraîné, c'était au Templier, donc fin octobre, et jusqu'à mi-janvier, fin janvier, j'ai...
Ah, c'est assez rapide, t'as pas eu trop de...
Ouais, non, c'est... Puis bon, je pouvais quand même faire un peu de home trainer, mais en fait, c'était à un moment donné, j'ai arrêté parce que on avait aussi le sentiment que ça faisait tourner le truc en boucle, quoi. C'est-à-dire que le fait de toujours renvoyer une petite douleur au niveau du cerveau, bah en fait, ça empêchait le fait de faire diminuer. C'est vraiment le moment où j'ai arrêté d'avoir du symptôme que ça a passé des caps, quoi. Mais j'ai beaucoup évolué entre mon premier stage de rédu qui était après les Templiers, là, fin octobre, début novembre, et celui que j'ai refait en janvier où je pouvais faire vraiment des exos. Tu vois, par exemple, je pouvais pas faire un pistole au premier stage. Là, je pouvais passer un pistole en ayant presque pas de douleur et petit à petit pouvoir remettre de la charge, de la contrainte sur la rotule. Après, aujourd'hui, je peux quand même pas mettre le plus lourd possible à la presse et descendre sur ma rotule avec zéro symptôme, quoi. Ça, quand même, sur au-delà d'une certaine angulation, il y a quand même un peu de symptômes. Mais bon, maintenant, je commence à avoir des douleurs qui sont plus dans la zone habituelle. Donc ça, c'est plutôt quand même bon signe que ça se réadapte autour, quoi.
Mais quand t'as mal ailleurs.
J'ai un peu mal, tu vois, à la face interne de la rotule. Mais bon, mon kiné Antoine Gonin m'a dit, ouais, bah, en même temps, 15 jours de rééduc avec de la charge deux fois par jour, bon, il y a un beau bout d'un moment, là déjà il me dit normal, il fait un syndrome fémoro-patellaire, il dit bon que ça soit un peu sensible, c'est pas non plus surprenant, mais là petit à petit ça se réadapte bien, donc puis bon, j'ai refait il y a 2 semaines 20 heures d'entraînement et c'est quand même une petite barrière, je trouve, un peu psychologique, c'est à 20 heures d'entraînement, et donc la semaine dernière j'ai refait 20 heures, donc ça va bien, je peux refaire du vélo avec mon pote Thibaut Garivier qui est quand même un boucher, donc là je me suis dit quand même t'as pu faire 5 heures avec lui, c'est que ça revient, c'est que j'aime bien dire ça en rigolant, mais tu quittes la sédentarité et tu redeviens un athlète un peu de haut niveau, quoi.
Tu dis que t'as commencé à courir à 15 ans.
Ouais, j'ai fait du foot d'abord.
Non. Du foot.
J'ai fait du foot parce que en fait, je viens de la campagne, ce que je te disais en off, je vis dans un village où il y a 50 habitants, donc t'as pas toutes les activités sportives. Je faisais du foot, c'était jouer avec les copains, en fait, c'était courir après le ballon. Après, j'ai toujours un peu des facilités. Puis j'avais une autre passion. Mon papa, c'est un chasseur à bloc, et on avait des chiens de chasse, et donc moi, j'adorais emmener les chiens. Et quand j'ai pu aller à la chasse, moi, j'ai arrêté le foot pour pouvoir aller le week-end chasser et courir avec les chiens, rechercher les animaux. Et du coup, la course à pied, bah, c'est vraiment la liberté. Tu vas courir souvent. Ce que je faisais, c'est, genre, je passais la journée à courir avec les chiens. Et puis, genre, à 18h, je mettais à l'affrontage, j'allais courir 1 heure. Et, après, mes parents m'ont toujours dit, de toute façon, t'as jamais marché. Tu faisais tout le temps courir dès que t'as pu te déplacer sur tes deux jambes. Donc, je pense que puis bon, j'ai quand même ces souvenirs-là de gamin. J'étais fils unique. Dans un petit village, donc bon, j'avais de la chance, j'avais quand même quelques potes de mon âge, mais tu vois, je jouais souvent tout seul avec mon ballon de foot, tu vois, du coup j'ai toujours été, je pense, assez actif. Et après j'ai commencé à courir un été avec mon cousin qui a 10 ans de plus que moi, donc qui faisait de la course à pied comme ça, et en fait genre je courais jamais des directs, il s'entraînait quand même bien 4-5 fois semaine, je courais plus vite que lui, il m'a dit mais quand même je pense que t'as des qualités pour ça. Et puis après j'ai fait des petites compètes. Et c'est quand j'ai fini mes études que je me suis dit, allez, je me mets à fond, et j'ai pris un entraîneur, et puis là, je me suis mis.
Donc à 24 ans.
Ouais, à 24, ouais, 2010, j'avais 24, et puis j'avais jamais trop trouvé ma voie, tu vois. J'avais des facilités à l'école, mais pas du tout de motivation pour travailler, donc j'ai arrêté. Bon, j'avais une licence, mais j'ai arrêté assez tôt, et le sport, ça m'a donné quand même un truc où, une forme de reconnaissance au début quand même. Après, c'est plus du tout été ça, mais c'était s'investir à fond dans quelque chose et se sentir capable de faire des choses qui sortent un peu de la norme, quoi.
C'est quoi ton rythme d'entraînement entre 15 et 24 ans? Est-ce que c'est très archaïque, genre 3-4 fois par semaine, ou quand t'as le temps, quand t'as des vacances?
C'était, alors, jusqu'à ce que je finisse le lycée, c'était plutôt ça, 3-4 fois, parce que je pouvais pas aller courir, j'étais à l'internat, je pouvais pas aller courir à part le mercredi, donc en gros, je courais... il y avait un peu les séances de sport à l'école, j'y allais le mercredi après, mais puis le samedi dimanche, donc 3 fois. Et après, dès que j'ai arrêté le lycée, que j'étais à la fac, là, je courais quasiment tous les jours, mais c'était hyper basique. C'était genre, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'entraînement, c'était une heure et demie au tempo, tout le temps. C'était vraiment pas ce qu'il faut faire normalement, mais...
Il y en a pour qui ça marche, a priori.
Bah, en fait, ça marche parce que tu mets un stress qui est relativement élevé. la problématique de s'entraîner comme ça, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas augmenter indéfiniment ton nombre de fois dans la semaine. Donc, en fait, l'entraînement plus réparti en zone, il est avant tout là pour pouvoir faire plus de volume d'entraînement. C'est que moi, je pense que si tu peux pas t'entraîner beaucoup, faut pas s'entraîner trop lentement non plus. Tu vois, on peut parler des zones d'entraînement. Il y a un moment donné, il y a aussi le stress que tu génères, tu vois, dans la semaine. Et du coup, ce stress-là, si tu le fais avec beaucoup de volume, ta charge globale, si tu fais beaucoup de volume, il va falloir que l'intensité moyenne, elle soit plus basse. Et si tu fais moins de volume, je pense que tu peux mettre un peu plus d'intensité moyenne dans tes entraînements, quoi.
Et donc là, tu fais tout ce tempo, genre pendant des années. Et qu'est-ce qui te pousse à 24 ans à te mettre un peu plus sérieusement, on va dire, dans l'entraînement et peut-être les compétitions?
Alors j'avais fait quelques compétitions, tu vois, par exemple, j'avais fait le marathon du Mont-Blanc en 2007, donc j'avais 21 ans, j'avais fait premier espoir. Donc j'avais quand même vu que j'avais des qualités qui étaient quand même intéressantes. Et au début, j'ai eu une démarche un peu compétitive avant d'avoir vraiment un entraîneur, mais j'y connaissais rien. Et puis j'étais un peu mode, ouais, aujourd'hui, je vais faire une intensité, puis ouais, j'ai la flemme en fait, je la fais pas, je la ferai demain. Et en fait, un coup, j'ai fait une course qui est organisée par Hugo Ferrari, maintenant trail du Nivolet Revard. À l'époque, c'était une manche un peu bonus du championnat de France. Et il y avait un gros niveau, dont François Den, qui avait gagné ce jour-là, Thierry Breuil, qui est plus trop connu, mais qui a été l'un des meilleurs Français à l'époque, et mon entraîneur, Patrick Bringer, qui a terminé 3e. Et en fait, là, j'avais fait 20e, vraiment loin d'eux. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, quand même, si un jour tu veux courir avec ces gars-là, va falloir faire quelque chose. Et j'étais allé voir mon entraîneur, Patrick Bringer, et il était assis contre un mur dehors et tout, je me rappelle. Et je me suis dit, ouais, voilà, j'aimerais bien avoir un entraînement plus structuré. Et au début, il m'avait dit, ouais, non, milieu de saison. Et à l'époque, il entraînait Thomas Laure Blanchet, qui a été un peu une des références du trail français, qui, je pense, que j'avais connu le jour du marathon du Mont-Blanc, parce que j'avais un petit partenariat à Salomon. Et je pense qu'il lui avait dit, ah, si, quand même, Nico, il doit avoir des qualités, il faut essayer. Et en fait, après, ça a été vraiment un truc qui m'a animé, parce que du coup, quand j'ai fini mes études, je me suis mis à travailler, j'avais un travail purement alimentaire. Donc en fait, ça t'épanouit pas du tout, quoi. Moi, je me levais le matin, c'était pour... Tu m'aurais dit, t'as pas de salaire, j'y allais pas, quoi. Et donc du coup le sport c'est vraiment ce qui me nourrissait, quoi. Donc j'ai fait ça. Au bout d'un moment, j'ai quand même rentré en équipe de France en travaillant 40 heures semaine et en s'entraînant à côté. Mais au bout d'un moment, j'avais une frustration de me dire, ouais, tous les mecs qui sont autour avec moi, soit ils ont, sans caricaturer, mais il y en a pas mal qui étaient profs et qui ont quand même pas mal de périodes où ils peuvent s'entraîner plus que quand t'as juste 5 semaines de vacances. Et à un moment, j'ai arrêté de bosser à plein temps. En mode, je vais essayer d'être athlète pro, mais j'avais pas du tout un contrat pour être athlète pro, mais je vivais chez mes parents, donc j'avais épargné. Je me suis dit, je me donne 1 an et demi, 2 ans pour être.
Mais t'avais quel âge, là?
J'ai arrêté à l'été 2015, fin août.
29 ans.
Tu vois, j'avais 29 ans et je me suis dit, je vais faire 2015-2016 en essayant d'être pro. Donc je travaillais que l'hiver. J'étais skiman au Saisy, parce que j'habitais dans le Beaufort à l'époque, donc je travaillais 4-5 mois pour arrondir un petit peu. Après, dès l'année 2016, j'ai vraiment passé un cap, je suis devenu vice-champion du monde. Donc là, j'ai commencé à avoir un contrat qui me permettait quasiment de vivre à l'année.
Ça a vite marché, alors?
Ouais, parce qu'en fait, je m'entraînais. C'est ce que j'aime bien dire. En fait, s'entraîner, c'est pas un problème. Tu peux toujours t'entraîner. Enfin, tu vois, moi, à ce moment-là, je travaillais et puis je m'entraînais. Donc,
En fait, t'es sur les skis toute la journée, t'es toujours en activité.
Mais ce qui me manquait, en fait, c'est que tu t'entraînes, mais t'assimiles pas ton entraînement. Et du coup, je pense que j'avais développé des capacités. Mais j'avais jamais assimilé ces capacités parce que, en fait, c'est genre, tu rentres du boulot, tu vas courir, tu vois, j'allais pas mal au club à l'époque, tu rentres à 21h.
Au club
d'athlé, tu vois, tu rentres à 21h, j'habitais pas quand même à côté de mon boulot, donc j'avais 1h30 de trajet par jour, qu'en fait, tu te posais jamais. Après, je fais un boulot, je me levais la nuit, donc ça, je pense qu'au niveau hormonal et tout, c'était pas ouf. Et en fait, c'est vrai que dès que j'ai entraîné, la première prépa, c'était que j'ai fait comme, en étant pro, en juste 2 mois, j'ai fait 2e des Templiers. Et j'ai vraiment senti, en fait, que j'étais tout le temps fatigué. Je m'en rendais pas compte parce que c'était mon état un peu naturel. Mais quand j'ai pu redormir normalement et tout, je me suis rendu compte. Quand t'es pro, en fait, s'entraîner 2 fois par jour, c'est facile parce que tu te lèves, tu t'entraînes, tu fais la sieste. Et quand t'as fait la sieste, t'as l'impression que tu fais une 2e journée, quoi. Alors que quand t'es. Puis moi, des fois, je doublais, je me levais le matin à 7h. Alors, des fois, je courais à jeun, mais sinon, je courais le midi, puis je recourais le soir. En fait, tu te poses jamais de la journée.
Mais tu bois à jeun pour brûler plus de lipides, non?
Non, je courais à jeun parce que ça rentrait mieux, mais ça, c'était un peu une croyance qu'on avait à l'époque. Alors, après, tu vois, la science dit que ça marche pas. Moi, je pense qu'au niveau central, quand même, ça peut avoir des effets quand tu vas faire des efforts longs. pour que ton corps il soit moins surpris de ce qui se passe quand il y a moins de glycogène, tu vois, ce genre de choses. Mais maintenant, j'en fais plus et j'ai pas vu de différence, quoi.
En 2015, le trail, j'ai l'impression que c'était beaucoup moins populaire que maintenant. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde veut faire du trail. C'est très à la mode. Toi, c'est quelque chose que tu as découvert un peu comment cette histoire de trail?
Et ben moi j'ai découvert le trail après par ma pratique sportive parce que je courais vraiment dans les chemins. Moi j'habite à la campagne donc dès que je me suis mis à courir c'était dans les chemins. Après bah les Templiers tu vois ça date quand même de 2015. Moi ce qui m'a donné envie de faire du trail vraiment c'est 2007. Donc là j'étais allé faire une petite course des Templiers et j'avais vu Thomas Laure Blanchet qui a remporté la première fois le Grand Trail des Templiers. Tu vois l'émotion et tout, la musique d'Hera à l'arrivée. Je me suis dit moi un jour je veux faire ça. Bon ça mature. J'ai jamais été quelqu'un de très précoce, on va dire, du coup, ça a mis 4-5 ans à maturer. Et après, je me suis mis plus spécifiquement. Et moi, j'ai après, le problème, c'est que tu es très centré dans ton truc. Mais oui, je dirais qu'il y a eu un. Ouais, il y a quand même eu, à partir de 2017, 2018, surtout l'UTMB a grandi et est devenu plus médiatique. Et c'est vrai que le trail est. C'est un peu plus développé. Après, ça reste un sport quand même, tu vois, mineur. Hein, c'est pas. Enfin, tu vois, ici, on est à côté d'Annecy. Donc, c'est quand même. Je pense qu'on n'est pas, ça reflète pas vraiment la vie d'autres endroits de France. C'est pas comme ça. Nous ici, c'est très sportif. Et puis, ouais, bah, le trail, quand t'habites dans un territoire où il y a des montagnes, c'est une pratique beaucoup plus naturelle que, bah, même si ça se pratique partout. Bon, quand t'habites au milieu de la plaine de la Beauce, tu vois, t'as moins peut-être cet attrait pour le trail que quand t'es ici où bah il y a des montagnes partout autour de toi. Et le trail, c'est aussi la découverte, l'aventure, tu vois, au-delà de parler de la compétition, moi, si j'ai envie de continuer, c'est aussi parce que, en courant, en n'ayant pas trop de limites, bah, tu peux aller explorer plein de choses rapidement, quoi. Tu vois, par rapport à de la randonnée, c'est un sommet, bah, quand tu cours bien, tu peux faire 2, 3 sommets dans la journée, quoi.
Comment se structure ton entraînement à partir du moment où tu as Patrick en tant que coach? Parce que là, tu étais au tempo tous les jours. Et est-ce que quand Patrick te prend en main, tu sais, aujourd'hui, bah, c'est la mode, tout s'est démocratisé sur les tests d'effort, on va dire, les tests physiologiques, entre guillemets. Est-ce que l'entraînement se structure? Comment il se structure déjà? Est-ce que tu fais des tests? Est-ce que tu fais pas de tests? Comment ça fonctionne tout ça?
Alors, à l'époque, dans ma famille, ils trouvaient que je m'entraînais déjà beaucoup, tu sais, genre, je courais tous les jours, quoi. Donc là, j'ai découvert un truc, déjà, je savais pas que ça existait, c'était s'entraîner 2 fois par jour. La première fois que tu m'as mis ça le week-end, je fais, ah, mais on s'entraîne 2 fois par jour, on fait une séance le matin, on fait 3 heures de vélo l'après, mais ouais, c'est possible, ça, tu vois. Déjà, il y a eu cette découverte-là, et c'était, tu vois, quand je recevais le plan, je disais, ouais, c'est super dur. Et maintenant, tu me montrerais le plan, je dirais, ouais, c'est une semaine de récup, quoi. Tu vois, limite. Et pas trop de tests. Patrick, il est pas trop, trop dans les tests. Il est plutôt, et ça se prête bien à cette discipline, pas mal dans le sensationnel. Donc, au début, moi, je faisais plutôt des 20 bornes avant, parce que j'avais fait quelques courses. Donc, du coup, en fait, je courais à bloc, et puis je survivais. sans trop se ravitailler. Donc, le premier temps, ça a été un peu structuré, le ravitaillement pour les courses plus longues. Et puis, au début, j'ai mis le cardio. Vraiment pour limiter l'effort en début de course, notamment parce que je pense que j'avais quand même plutôt un profil assez puissant pour quelqu'un qui fait un sport d'endurance. Donc, je pense que j'utilisais beaucoup mes réserves de glycogène en partant vite. Et ça me faisait, moi, chez moi, ça déclenchait surtout des crampes. C'est-à-dire que tous les premiers trails que je faisais, j'avais des crampes, des crampes, des crampes. Et donc, ça s'est structuré comme ça. Après, je me rappelle une des premières choses qu'il m'a dit, moi, je suis arrivé, je lui ai dit, moi, j'ai 2 rêves, c'est je veux gagner les Templiers et être en équipe de France. Et tu vois, alors il m'a dit, ok, ça c'est possible dans 5 ans. Tu vois, déjà quand tu commences, on dit un truc dans 5 ans. Et après, par contre, ouais, je me suis mis dans le process. Et puis, comme j'adore faire du sport, ben, j'étais pas trop dans l'attente du résultat. Après, je pense qu'il a su bien me driver aussi d'aller faire les courses où t'arrives à réussir, des courses plus relevées où tu te prends des branlées, mais tu te rends compte que, ah ouais, là, faut continuer à travailler parce que t'es loin. Et je trouve que j'ai toujours eu la chance, entre guillemets, d'avoir les petits résultats qui te permettent d'entretenir ta motivation de manière un peu extrinsèque. Mais aussi ta motivation intrinsèque et d'arriver petit à petit à progresser jusqu'à avoir un niveau qui te permet bah, de jouer à l'avant des courses, même si j'ai pas gagné beaucoup de grandes courses, d'être quand même acteur sur des courses internationales.
En termes de répartition des intensités, est-ce que tu te souviens un peu à ce que ça donnait? Aujourd'hui, c'est très la mode de l'entraînement polarisé. Voilà, si on parle des 3 domaines d'intensité, si on réfléchit à 3 zones, est-ce que ça ressemblait à ça? Parce que j'ai l'impression que quand tu fais du trail, en fait, ça fait que monter, descendre. Donc, en fait, t'es tout le temps en train d'alterner, de monter, de descendre en termes de pulse.
Ouais, alors déjà moi je suis pas trop fan de ces manières de présenter l'entraînement parce que enfin moi qui entraîne, c'est aucun entraîneur ne enfin mon point de vue sauf quand tu sors de l'école mais personne ne raisonne comme ça, c'est-à-dire que quand t'entraînes, tu entraîne pour développer des qualités. Et selon les qualités que tu veux développer, ça peut être un entraînement polarisé. Si par exemple tu veux booster ta puissance maximale aérobie ou ta vitesse maximale aérobie, c'est polarisé parce qu'en fait ton objectif c'est de pouvoir pousser sur ces séances intenses. Donc le reste de ton entraînement, tu vas le modérer parce que si tu fais des trucs trop de volume ou trop à haute intensité, l'athlète il va pas pouvoir réaliser ses séances. Donc c'est plus une conséquence de ce que tu veux développer qui va vers l'entraînement polarisé plus qu'un objectif en soi. Enfin tu conçois pas un plan d'entraînement en disant faut que ce soit polarisé. Enfin après il y a une logique, tu sais très bien que un entraînement, si le mec il fait que de la haute intensité tous les jours, ça marche pas. Moi, j'aime bien une analogie. Je sais pas si t'as écouté le podcast que j'ai fait avec Nico Vandel l'autre jour. Mais tu vois, sur qu'est-ce qu'il y a là-bas. Enfin, le développement à long terme, c'est l'endurance. Et le court terme, c'est plutôt optimiser sa perf pour le court terme quand tu fais de la compète. Et donc, pour moi, la base de l'entraînement, elle doit être plutôt la basse intensité dans un sport d'endurance. Et après, ce que tu viens mettre, les autres intensités que tu viens mettre, elles sont vraiment dépendantes de quelle qualité tu t'es développé ou du moment où t'es selon, qu'est-ce qu'il faut quand t'es en prépa spécifique en trail sur des courses assez longues. Dire je vais faire que de l'entraînement polarisé, ça peut pas marcher de mon point de vue, ne serait-ce que psychologiquement. L'athlète, tu lui dis, j'en sais rien, s'il est de bon niveau, c'est l'équivalent, c'est courir à 15 pendant 6 heures. Alors c'est jamais vraiment du 15, ça monte, ça descend, mais tu vois, c'est en termes de ressenti, c'est comme s'il courait à 15 sur le plat. Si le gars, tu lui fais courir soit à 12, soit à 18, et que tu le mets là, cours à 15, ça fait des mois qu'il n'a pas couru à 15, il va pas savoir faire, tu vois. Sauf si le gars, quelqu'un comme moi, qui a une expérience énorme, mais c'est aussi ça qui est très dur à analyser dans l'entraînement, c'est qu'un athlète, c'est pas ce qu'il a fait les 6 derniers mois, c'est ce qu'il a fait depuis des années. Et donc, du coup, tu vas prendre un entraînement, un plan d'entraînement de X ou Y personne, dire, ah ouais, ça marche. Ouais, mais ça marche, mais le mec, ça fait 10 ans qu'il fait des choses. Et peut-être que son entraînement là, il marche aujourd'hui parce qu'il a fait plein de choses différentes avant et que si t'as pas fait ces choses-là, le même plan d'entraînement, il a pas du tout les mêmes effets. Donc moi, c'est beaucoup plus des phases. Soit tu fais du développement de qualité et après tu fais plus des phases spécifiques. Mais globalement, j'ai toujours eu tendance à avoir plutôt de l'endurance haute, moi, donc la zone 2 un peu, on va dire. Tu vois, quand je faisais de l'endurance, c'est-à-dire me balader, ça a jamais trop été mon truc, tu vois. Genre courir à 110 pulses ou 100 pulses, vraiment la balade. C'est un truc que j'ai jamais trop su faire. Et il y a eu des périodes où je me suis trop entraîné parce que je faisais trop de volume par rapport à mon intensité d'endurance. Et du coup, je me disais, je suis pas fait pour faire beaucoup. Et à un moment donné, j'ai voulu baisser mon intensité, mais je me suis rendu compte que ça me plaisait pas dans la manière de faire. Et j'ai préféré dire, OK, moi, je sais pas faire 25 heures d'entraînement, 18, 20 heures, ça me suffit. Mais en allant un petit peu plus vite sur l'endurance, alors toujours en étant sous le seuil 1, même si forcément, comme tu le disais, en trail, on a beaucoup plus d'oscillation des intensités quand même. Et ça, je suis même pas trop arrêté. Tu vois, est-ce qu'il faut regarder ce que fait l'athlète partout dans la sortie, ou est-ce que par exemple les pulses moyennes, si elles sont pas trop hautes, ça va. Moi, je me dis tant que ça génère pas trop de fatigue, les endurances, tant que l'athlète il va pas me faire du seuil 2 quand il faut faire de l'endurance, ça me convient parce qu'après. Vu que l'entraînement, c'est toujours du long terme, le fait que l'athlète, ça lui plaise ce qu'il fait, c'est quand même hyper important, moi, je pense, dans le coaching, tu vois. Sauf si t'as des gens, tu leur dis, faut faire hyper carré. Mais moi, je me rends compte que, tu vois, là, j'ai pris un entraîneur, c'est plus carré et tout. Bien, en fait, je sens que trop carré, ça me convient pas. Hier, j'avais de l'endurance, 3 heures, Thibaut m'a doublé, il était en train de faire une séance. Ah, je me suis pas pu m'empêcher de faire 5 minutes un peu derrière, tu vois. Et en fait, ça me nourrit tellement que je pense que c'est plus intéressant de faire ça parce que ça entretient ma motivation et que comme ça, je dure beaucoup plus longtemps qu'être trop carré, quoi. Et ça, c'est propre à chacun, je pense, quand même.
Tu parles de seuil 1, de FC, de basse intensité. Comment tu détermines que tu es sous ton seuil 1?
Y a pas... Alors, soit tu fais des tests physio et encore...
Est-ce que tu en as fait?
J'en ai fait, ouais, mais moi, je suis... En fait, souvent, le problème quand tu fais des tests physio, c'est qu'on essaye de tout voir, donc du bas vers le haut, et donc c'est des tests un peu trop rapide de mon point de vue, tu vois, on reste pas assez sur des états stables. Et bon, après, l'interprétation du seuil 1, déjà, c'est pas, si tu connais un petit peu avec les échanges gageux, c'est pas non plus si évident que ça. Après, j'aime bien une phrase de Thomas Laure-Blanchet qui dit on peut jamais s'entraîner trop lentement. Ça, je suis assez d'accord. Et globalement, moi, c'est quand je fais de l'endurance, il faut que ce soit relativement facile. Et j'utilise quand même l'AFC pour apprendre aux gens. tu vois, ce qui est le facile, quoi. Parce que t'as des gens, en fait, qui ont tout le temps du moyen. Donc, pour eux, c'est facile parce que c'est, ils se font pas vraiment mal. Mais si, tu vois, une fois que tu vas bien avoir réévalué leur spectre d'intensité en RPE de 1 à 10, bah, en fait, ils font souvent du 4-5, tu vois. Et du coup, après, ils sont pas du tout habitués à faire du 7-8. Donc, des fois, quand c'est dur, ils savent pas vraiment aller pousser vers le haut. Mais globalement, après, t'as des choses un peu, tu vois, par exemple, pouvoir parler avec quelqu'un de manière relativement aisé, tu vois, sans avoir besoin de reprendre beaucoup sa respiration, c'est des choses un peu basiques qui peuvent servir. Des fois, on dit, tu vois, pouvoir respirer juste en nasal, mais ça, si tu développes beaucoup tes muscles respiratoires, je pense que tu peux le faire à des intensités plus hautes aussi. Donc, ouais, c'est juste quand c'est facile, fais facile, et puis finalement, c'est jamais trop facile. Le vélo, ça peut être pas mal sur les zones de puissance aussi, mais ouais, moi, c'est aussi, j'aime bien ce que je t'ai déjà dit, c'est le côté. Faut aussi que ça reste un plaisir, l'activité. Et finalement, est-ce qu'on va trop vite? Je sais pas, si un mec il va un peu vite et comme ça il s'entraîne plus parce que ça le motive, ben je préfère petit à petit lui amener un petit peu, tu vois. Des fois, j'aime bien laisser chaque erreur, c'est-à-dire regarde, là tu vas trop vite, hop, là t'es fatigué. Bon bah là t'as appris que ça c'est trop vite pour faire les intensités à côté. Bon bah tu vas apprendre à aller plus lentement, quoi. Mais c'est très différent. Et c'est quand c'est facile, ce qui est pas simple, c'est que c'est, en fait, plus t'es fort et plus tes spectres, ils sont grands. C'est-à-dire que, un athlète de bon niveau, enfin, surtout, alors, en trail, c'est un peu moins vrai, mais à plat, par exemple, un athlète de haut niveau, tu vois, en course à pied, il a un seuil 1 qui est, on va dire, allez, je pense, à 18 km/h. Tu vois, courir à 18 km/h sans t'en rendre compte, c'est quand même relativement rare, tu vois. Alors que quelqu'un qui a beaucoup moins de différence entre, j'aime pas trop le terme VMA, mais on va dire sa vitesse critique, c'est un peu plus la
c'est
norme actuelle.
C'est le gold standard, il paraît.
Ouais, bon, après, moi, je trouve que, en fait, les tests, ça te permet d'avoir des bases pour expliquer aux gens, tu vois. Est-ce que c'est juste, tu prends un test de 5 minutes pour faire la VMA, ouais, est-ce que tu vas pas faire un protocole de recherche avec ça, mais finalement, tu lui donnes une vitesse. Après, la préconisation du pourcentage de vitesse, il va dépendre des séances que tu lui fais faire. Tu vas rétro-contrôler. Tu peux pas dire le seuil 2, il est à X% de la VMA chez tout le monde. Non, moi, je vais faire un test de VMA, par exemple, parce que c'est assez simple. Et puis après, je vais faire une séance, je vais voir les vitesses. Et puis après, je vais lui dire, pour lui préconiser le travail, bah, cours à peu près à cette vitesse. Voire même, des fois, j'aime pas trop mettre des vitesses parce que, par exemple, quand tu fais travailler du tempo, tu vois, tu mets une vitesse. Par exemple, il est fatigué, le gars, il va courir à la vitesse, alors que ce jour-là, peut-être, c'est son seuil 2. Du coup, bah, tu lui as mis un volume qui est plutôt calibré pour du travail de tempo. Donc, il dit, ouais, mais j'ai bâché la séance. Mais pourquoi t'as bâché du tempo? C'est pas normal. Ah oui, mais parce que j'arrivais pas à tenir la vitesse. Bah ouais, mais en fait, c'est pas la vitesse qui crée les adaptations. C'est l'intensité à laquelle tu cours. Donc, si t'es fatigué, réduis ta vitesse, tu vois. Ça, c'est des choses, il faut quand même, tu peux l'expliquer, mais je pense que les gens, faut quand même aussi qu'ils le vivent, qu'ils expérimentent, qu'ils se disent, ah ouais, des fois, faut aller moins vite. Et c'est pas toujours des choses qui sont très simples. C'est pour ça aussi qu'il faut s'investir longtemps, parce que quand tu t'investis longtemps, t'augmentes ton expérience et en fait, t'as plein de situations où tu dis, ah, ça, j'ai déjà fait cette connerie-là, je vais pas la refaire, tu vois. Alors que si on te le dit, ça, t'as des gens, ils sont très scolaires, mais t'en as aussi, autant qu'ils ont pas vécu le truc, tu vois. Enfin, moi, un des meilleurs exemples que je connais, c'est Sylvain Cachard. Tu vois, il supportait pas la chaleur. Et une fois, il prépare une course, et je lui dis, non, mais là, franchement, c'est dans les Canaries, même au mois d'octobre, il va faire chaud, tu vois. Et, chez nous, tu vois, fin septembre, début octobre, il commence à faire moins chaud. Et je lui dis, si tu veux et tout, j'ai changé de home trainer, je te prête mon home trainer, fais du home trainer, couvert et tout, un minimum d'acclimatation. Il me dit, ah, non, mais non, j'ai pas envie. Bon, il va à la course, bam, il fait un coup de chaud, bien sûr, tu vois. Et, après, il en refait un autre sur une course, et là, il a compris. Tu vois, l'année suivante, il a dit, ouais, je vais faire un stage d'acclimatation à La Réunion et tout. Il est revenu stratosphérique et tout, parce que je pense que vraiment, lui, le stress environnemental de la chaleur, c'est un gros levier. Et tu vois, il a fallu, mais tant qu'il n'a pas expérimenté lui, bah, tu lui disais, il disait, ouais, non, mais. Tu vois, donc, il y a des gens, c'est comme ça. Et tu vois, je ne sais pas comment tu vis le coaching, mais le coaching, il y a une partie psychologique avec les gens.
Pour moi, c'est plus psychologique.
Mais beaucoup. Bah, moi, je dis que, ouais, pour. Je parle pas du haut niveau, parce que le haut niveau, après, c'est pointu, mais sur du niveau moyen, s'il faut qu'une licence, je pense qu'il faut plus une licence de psycho que de physio, en fait.
Oui, je pense bien.
Parce que, en fait, tu fais courir les gens, ils progressent, hein. Quand ils débutent, c'est tant que t'as des bases, ça suffit, quoi.
Tu parles de 20 heures d'entraînement, du moins pour toi, pour atteindre ton très haut niveau. Ça se décompose comment ces 20 heures? Parce que tu parlais tout à l'heure que Patrick, tu avais mis par exemple des doubles entraînements avec du vélo. Donc est-ce que le vélo fait partie de l'entraînement pour le train, tu vois? Parce que c'est l'entraînement croisé, donc on pourrait dire que les adaptations sont pas vraiment spécifiques.
Ouais, alors ça, il y a deux approches, on va dire. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette approche croisée parce que je pense que j'ai jamais été biomécaniquement hyper fait pour la course à pied. C'est toujours un peu quand je faisais beaucoup de volume à pied, toujours un peu des tensions. Donc moi, j'ai toujours mieux toléré, par exemple, une séance de course à pied, une séance de vélo,
Attends,
pour faire du.
tu pouvais faire autant de vélo que de course à pied.
Bah ouais, moi, il y a des moments, mais je pense que ça a des limites en termes de, tu vois, pour faire de l'ultra, je pense que c'est limité.
Ouais, bon, pour faire.
Limitatif parce que en fait après t'es pas biomécaniquement vraiment adapté à courir 160 bornes. Moi j'ai senti après c'était personnel aussi hein, mais vers 100 jusqu'à 100 bornes ça marchait et après et bon j'ai pas fait souvent mais à chaque fois que je me suis approché de 100 bornes c'est au bout d'un moment ça a bloqué biomécaniquement tu vois. Et par contre je pense qu'il faut trouver ce qui te permet de faire le plus de charges d'entraînement possible. Donc je pense que si t'es capable de tolérer beaucoup de charges en tant que de la course à pied. Moi, pour moi, le spécifique, c'est imbattable de faire ton activité spécifique. Par contre, si à un moment donné, j'en sais rien, t'arrives pas à courir plus de 80 km par semaine pour X ou diverses raisons, bah si tu peux ajouter du vélo en parallèle, tout ce qui est central se développe très bien sur le vélo.
Mais c'est beaucoup plus dur sur le vélo de me faire monter les pulls, tu comprends?
Ben moi, enfin, ça, c'est mon expérience
Non, mais je
personnelle.
vois.
L'expérience que j'ai de coach, je suis aussi d'accord. Les FC Max, elles sont souvent différentes, mais c'est pas vraiment vrai, tu vois. Moi, j'avais 10 pulses de différence au début de ma carrière. Maintenant, j'ai quasiment pas de pulses et même des fois, j'arrive à monter plus haut à vélo
C'est
que,
vrai?
ouais. Tu
Ok,
vois,
c'est
j'ai
bien.
vraiment des FCM qui sont à, ouais, à une ou deux pulses pareil, quoi. Et je pense que c'est plus, en fait, le vélo, c'est plus musculaire quand même. Et je
Ouais, ce
pense
que
qu'il y a
j'allais dire, t'as
beaucoup,
les muscles congestionnent un
il y a,
peu,
ouais,
tout
c'est
ça.
ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des limites musculaires qui font qu'ils arrivent pas à exprimer, à fond le cardio. Mais comme, par exemple, quand tu t'entraînes des débutants, si tu veux travailler la consommation maximale d'oxygène, si tu les mets en boss, qui pour moi, de mon point de vue, chez des gens adaptés, fonctionne mieux que le plat, tu vas aller chercher plus de conso. Chez des gens qui sont pas adaptés, tu vas pas aller chercher ça parce qu'en fait, ils ont des limites périphériques qui font qu'ils arrivent pas à pousser à fond le central, quoi. Et donc, il faut adapter l'entraînement en fonction de aussi des limites des gens, quoi. Et donc, pour revenir sur l'entraînement.
Est-ce que ça veut dire que tu faisais beaucoup, tu fais toujours beaucoup de home trainer ou quand tu vois quand c'est l'hiver ou quoi?
Ouais, bah je fais ouais, je peux faire ouais, c'est
Est-ce que tu es abonné à Zwift?
bon, je suis pas abonné à Zwift parce que moi je suis beaucoup trop dans
Vieux.
l'amusement, mais dans l'amusement, c'est-à-dire que moi si je mets Zwift, je fais des séances tous les jours. Du coup, je me suis toujours dit non, tu prends pas Zwift, Nico, tu vas être n'importe quoi. Tu vois, moi il y a un mec qui me passe à côté sur la piste cyclable qui roule à McDo, je me mets dans la route, tu vois. Je suis c'est peut-être pour ça aussi qu'à 38 ans, je fais encore de la compète et que je m'amuse parce que moi dans ma tête en 2022, ça aurait été énorme qu'il y ait un film mais genre, mais j'étais un cadet, quoi. Enfin, pire, enfin, il n'y a pas de cadet, mais les juniors, mais j'étais pire que les juniors. Tu vois, je courais dans l'hôtel, je disais, oh, on va en mettre partout, on va en mettre partout. Tu sais. Mais après la course, les gars, ils me disaient, mais le mec, il a 15 ans dans sa tête, quoi. Tu vois, et vraiment, je pense que ce côté jeu, même si, parce que tu sais, on fait un sport, c'est quand même pas, on dit pas jouer au trail ou jouer à la course à pied, tu vois, il y a un verbe, quoi, courir. Et ça, c'est souvent indicateur du fait que c'est pas. C'est que c'est une activité qui est moins de l'ordre du jeu. Et moi, je pense que j'ai toujours eu ce côté m'amuser à l'entraînement, se challenger, même si des fois, je sais que j'ai peut-être moins bien fait. Mais en fait, je me dis, OK, j'ai moins bien fait à l'instant T, sauf que ça fait 15 ans que je fais du haut niveau parce que jamais je me suis dit, ça me fait chier de faire du haut niveau, tu vois. Et ça, l'amusement, c'est quand même ultra, ultra important dans l'entraînement. Si tu t'amuses pas, je pense pas que tu puisses faire ça longtemps, quoi.
Quelle est la place de la muscu dans ta préparation? Tu sais, c'est un peu le débat, on en parlait tout à l'heure. Tu sais, c'est est-ce qu'il faut faire de la muscu finalement? Est-ce qu'il faut pas en faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire de la force? Ou finalement, on n'a pas d'endurance musculaire, il faut faire de l'endurance en muscu? Toi, comment ça s'est organisé pour toi au fil de ta carrière?
Alors après, ça dépend ce que tu appelles de la muscu. De la muscu avec des charges, j'en ai des charges lourdes parce que après j'avais fait du gilet lesté, mais on peut pas appeler ça une charge. De la charge lourde, j'en ai quasiment pas fait jusqu'à il y a 2 ans. Par contre, on faisait beaucoup de pliométrie, genre des séances. Enfin, ça va faire les gens qui connaissent un peu ça, mais genre on faisait des séances, il y avait 1200 sauts quoi.
C'est vrai?
Ouais,
C'est énorme, non?
c'était des trucs de boucher. Ben, genre,
Qui c'est qui mettait ça?
c'était Patrick qui
Ça fait
mettait.
ça,
C'était.
1200
Je me rappelle pas parce que j'ai
sauts.
jamais été. J'étais trop. Jamais trop dans
Je pense
noter.
que c'est un contrat sur toi.
Mais J'ai le souvenir d'une séance. Donc, en gros, les séances, je me rappelle pas exactement, mais c'était genre, il y avait de la chaise, et puis après des montées de genoux, des foulées bondissantes, des cloche-pieds, des sauts de grenouille et des sauts en contrebas avec un saut vers le haut, tu vois. Rien que la partie saut de grenouille, il y avait 20 fois 20 sauts de grenouille. C'était des trucs de boucher, vraiment. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait que les gens génétiquement un peu hors normes, comme un peu moi, parce que j'avais des qualités pour ça, qui toléraient ça, mais les autres, ils avaient des courbatures pendant une semaine. Du coup, après, il a réduit, tu vois, mais j'ai fait ça. Donc après, je fais de la plus modérée. Et après, je faisais de la PPG, mais vraiment des trucs sans charge pendant longtemps. Et après, l'autre partie un peu musculaire, c'était de la force à vélo, quoi. Pendant longtemps, j'ai fait que ça.
C'est quoi de la force à vélo?
C'est plutôt basse cadence, tu vois, entre 40 et 50 RPM. Après, il y a deux types de travail, soit sur des volumes entre 30 et 40 minutes, on va dire en bas de zone 3, de ouais, spec d'intensité.
Quand même, tu pousses pendant 30-40 minutes.
Ouais, alors plutôt fractionné, genre 3x10, 4x10, 3x12. Après, moi, ce que j'ai trouvé souvent le plus intéressant, c'était de faire des choses un peu plus courtes, donc des volumes 15-20 minutes avec une consigne de cadence et après, en gros, la plus haute puissance possible. Et ça, bah, ça dépend des individus, mais quelqu'un qui est assez fort en trail, en principe, il est fort, parce que c'est quand même une qualité, la force en trail, il est capable de tenir le seuil 2 à peu près sur ces volumes-là. Donc après, c'est des séances très fatigantes, ça j'ai toujours ressenti, parce que t'as un double stress, t'as un peu un stress nerveux, on va dire, et puis un stress physio qui s'accumule. Donc c'est des séances, c'est une fois par semaine, parce que sinon t'es complètement HS. J'ai plutôt fait ça. Après, j'ai fait de la muscu plein de fois. Je me suis dit, je vais faire de la muscu, mais ça me plaisait pas du tout. Et là, il y a 2 ans, ça a commencé à me plaire d'aller faire de la muscu, de faire des choses nouvelles. Donc, j'en fais. Après, j'ai du mal à vraiment dire, est-ce que c'est mieux? Il y a des entraîneurs qui disent oui. Moi, je pense que ça marche si tout le reste est fait à côté. Mais du coup, ça marche parce qu'en fait, tu viens mettre un stress nouveau. Mais est-ce que c'est vraiment la muscu qui marche? C'est dur à dire, ça dépend. Est-ce que en fait faut être fort, et la question c'est, est-ce que si tu fais pas de la muscu, il y a que les gens naturellement forts qui réussissent, parce que j'en sais rien, ils ont des ancêtres qui enfin, mon père quand il te raconte son enfance, ils ont jamais fait de muscu, mais vu ce qu'ils faisaient, ils travaillaient la force et tout. Donc est-ce que génétiquement ça se transmet, ça je saurais pas trop dire. Mais bon, après je sais pas si t'as déjà fait du trail en descente, en excentrique, mais quand tu descends à bloc, ça fait aussi développer la force. Aurélien Dunant, pas là, qui a gagné la Hard Rock l'année dernière, qui a gagné la Diagonale des Fous, il s'est jamais mis sous une barre de muscu. Et du coup, moi, quand les meilleurs, ils ont jamais fait quelque chose, j'ai du mal à croire que ce soit vraiment un game changer, tu vois. Si les gens, ils arrivent à réussir, tu vois, on n'a jamais vu un haltérophile qui soulevait pas des barres, quoi. Tu vois, pour être un des meilleurs haltérophiles du monde. Donc, je pense que quand même, c'est intéressant, mais ça doit pas venir se mettre. C'est toujours moi ce que j'aime dire, c'est faut que ça vienne s'ajouter au travail physiologique. Faut pas que ce soit en remplacement, sinon je pense que c'est limitatif, quoi. Sauf sur des volumes très importants d'athlètes élites, quoi.
Je te mets un contexte parce que souvent sur les forums super physiques, on a des questions du style oui, j'aimerais faire de la musculation pour m'améliorer dans tel sport, tel sport, tel sport. Et donc on pose des questions et souvent la personne s'entraîne 3 fois par semaine dans le sport. Et donc avant, il y a des années quand on n'y connaissait rien, on disait bah oui, ça va te faire du bien. Maintenant, on a plutôt tendance à se dire bah écoute, rajoute une 4e séance de ton activité, ce sera plus profitable. Toi qui entraînes pas mal, et on y reviendra après. Est-ce que tu vois les choses aussi comme ça?
Ouais, complètement. Je suis d'accord. Après, ce qui est difficile, c'est que après, comme on sait que ça a quand même en fait, la force c'est quand même important. Et aujourd'hui, on a des activités, des gens qui ont beaucoup de boulot très sédentaire. Et donc après. C'est ce qui est toujours difficile aussi, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de l'entraînement et qu'est-ce qui est de l'ordre de la préparation à l'activité. C'est-à-dire que si t'es pas assez fort pour courir parce que j'en sais rien, tu commences à courir à 45 ans et que t'as plus fait d'activité physique depuis que t'as 15 ans et que pendant 20 ans, t'as passé 8 heures par jour assis en faisant zéro activité. En fait, il va peut-être falloir faire du renforcement. Mais juste parce que t'es pas apte à faire de la course à pied. Mais là, du coup, on n'est plus vraiment dans est-ce que c'est nécessaire à l'entraînement. C'est faut faire du renfo pour être apte à aller courir. Et après, une fois que tu seras apte à aller courir, moi, je pense qu'il faut plutôt quand même faire le plus possible dans son activité. Après, c'est où est la limite? Ça, c'est beaucoup plus dur à dire. Et, et tu peux pas le dire en dehors d'un contexte, quoi. C'est, on sait aussi qu'on peut pas passer de je cours 2 fois 30 minutes à je cours 5 fois 1 heure en 1 mois ou 2, quoi. Enfin, si tu peux essayer, mais souvent ça se termine mal, quoi.
À un moment, t'as fait le choix d'essayer de devenir athlète professionnel. Quand on était gamin, on a presque le même âge. Les athlètes professionnels étaient les athlètes de haut niveau. T'avais un très bon niveau et on s'imaginait, du moins j'imaginais, qu'ils vivaient de leur sport. Toi, comme tu l'as expliqué, t'as essayé de devenir, et avec succès par la suite, athlète professionnel de haut niveau en trail, en travaillant à mi-temps, en étant chez tes parents, voire en travaillant plus du tout à un moment. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi en fait à devenir athlète professionnel? Et je vais préciser, athlète professionnel, c'est pouvoir vivre de son entraînement.
En fait, ce qui m'a poussé à être athlète professionnel, c'était la peur de regretter de pas avoir exploré mes limites, genre à peu près aujourd'hui, enfin vers la quarantaine. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, moi, je veux voir ce que c'est mes limites physiques. Et donc, je veux pouvoir m'entraîner le plus possible, ou en tout cas, avoir l'impression que c'est le max des capacités que je puisse faire. Ça, c'était ma première motivation. Et en fait, de réussir à être athlète professionnel, ça m'a permis de pouvoir faire ça pendant plus longtemps. Si j'avais pas réussi à percer, j'aurais fait ça 2 ans. Et puis, à un moment donné, j'aurais dit, bon, là, mon gars, va falloir retourner travailler parce que t'as plus d'argent. Mais ça, c'était la première motivation. Et après, j'ai eu des résultats. Et après, je pense que j'ai pas été du tout bon, moi, dans la valorisation de mes résultats. Ça m'a jamais, moi, ce que j'aime, c'est courir, faire du sport, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je continue à faire du sport, parce que moi, demain, tu me dis, Nico, je te donne tant par mois jusqu'à la fin de tes jours en assurant les parties matérielles de la vie. Ben moi, je pense pas que je ferais très différemment de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, faire du sport 2-3 heures par jour, rentrer, avoir le temps de se poser, tu vois. Enfin, ce qui était dur à vivre quand j'étais pas athlète pro, c'est que je me suis rendu compte. Moi, une vie minutée, ça me convient pas du tout. C'est genre l'hiver quand je bossais, tu l'as dit, en saison, c'était beaucoup ça. Et au bout de 4 mois, mentalement, j'étais à 2 doigts de péter un câble. Tu vois, souvent, j'allais même pas au bout de mon contrat. Dès qu'il y avait moins de travail, je disais, ouais, tu veux pas l'arrêter le 15 mars au lieu du 30 mars, parce que là, j'ai juste envie, il fait beau, d'aller faire du vélo, que d'attendre dans le mag, comme ça, toute la journée, qu'il y a un client qui rentre, tu vois. Et donc, il y avait vraiment le fait d'aimer ça, tu vois. Je pense qu'il y a des gens dans leur vie professionnelle, plus jeunes, et ça, c'est un truc que je pense, c'est un conseil qu'on peut donner aux gens, mais c'est hyper dur, tu vois, quand t'as 18, 20 ans, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le reste de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Il y a des gens, je pense, je sais pas si toi c'était le cas, tu sais, c'est net et t'as envie de faire ça, mais souvent, tu vois, moi on m'a dit faut aller à l'université parce que en gros t'étais bon au lycée, et en fait je suis allé à l'université, c'était pas du tout fait pour moi. Et en fait, j'étais un peu en errance, tu vois. Et le sport, ça a plus donné un sens à ma vie. Et finalement, je regrette pas, parce que ça m'a ouvert plein de possibilités derrière, quoi, d'avoir fait du sport de haut niveau. Et après, j'ai réussi en vivre, mais c'était modeste, hein. Je veux dire, au début, je faisais à peine plus de 20 000 euros de revenus à l'année, hein. Donc,
mais comment j'ai levé ces 20 000 euros? Est-ce que les courses sont primées?
C'est surtout les contrats de sponsoring.
Comment tu trouves des sponsors?
Dans le trail, c'est plutôt des sponsors chaussures, souvent, parce que c'est quand même eux qui font le plus de business. Donc, souvent, c'est
pas... Et entre nous, est-ce que tu étais sponsorisé par les chaussures que tu mettais?
Moi, j'ai toujours
couru. Ou t'as collé un autocollant?
Non, bah, déjà, rien que le coût financier des chaussures, quand tu t'entraînes, quand t'es un athlète de haut niveau, tu t'en muses pas trop. Après, j'ai déjà testé d'autres chaussures pour voir ce qui existait, mais j'ai quasiment jamais acheté de paire de chaussures autres que me sponsor, tu vois. Puis en plus, je suis quand même assez, je suis pas trop favorable à dire mettre en avant des produits que tu utilises pas, quoi. Mais ouais, c'était les chaussures. En fait, moi, j'ai eu pas tellement d'équipementiers. Au début, j'étais plus dans un team qui était à l'époque, ça a été Team Sigvaris, donc ils ont été un peu, à un moment, il y avait la contention à l'effort. Eux, Sigvaris, c'est plutôt les chaussettes de contention, mais plus dans le médical. À la base, ils avaient développé une partie sport, donc ils sponsorisaient le team. Et après, je suis rentré chez Oka, et j'ai eu 2 partenaires principaux dans ma carrière, c'est Oka et maintenant Brooks. Et en fait, je suis resté dans la marque et j'avais un contrat. Après, quand j'étais vice-champion du monde rapidement, tu vois, dès la première année où j'étais entre guillemets pro, en fait, plutôt athlète de haut niveau dédié à ça. Après, j'ai eu de quoi vivre, mais ouais, c'était... c'était modeste et j'ai toujours quand je travaillais l'hiver, c'est parce que sinon c'était compliqué financièrement, hein. C'était pas alors, au début j'avais un peu le côté rester dans la vie, dans la vraie vie, tu vois, parce que après sinon tu te déconnectes un peu des gens et donc j'aimais bien retourner travailler quand t'as le lien social, surtout que nous c'est pas très développé comme ça, donc souvent tu t'entraînes tout seul, donc au niveau social tu peux te trouver un peu isolé. Et puis bon, maintenant ça s'est développé, il y a plus de jeunes qui sont pro, semi-pro. À l'époque, moi j'étais quasiment le seul, tu vois, en équipe de France qui faisait que ça, quoi, ou quasiment que ça. Donc t'as pas à la semaine les mecs qui bossent, donc du coup tu te retrouves tout le temps tout seul à t'entraîner. Maintenant c'est un peu moins le cas, on fait plus de stages et tout, donc il y a aussi un peu plus de lien social même quand t'es athlète professionnel, quoi. Mais il y a pas du tout la structure de d'autres sports, ou enfin déjà les sports collectifs c'est plus simple parce qu'ils s'entraînent au même endroit, mais même le vélo, tu vois, le vélo il y a plus de stages, il y a plus de moyens. Nous c'est des stages, ils sont beaucoup plus informels, même de gens de marques différentes, c'est genre bref, les gars, on va dans le sud pour faire du vélo au mois de février, et puis pouvoir courir plus au soleil, tu vois, c'est beaucoup plus informel.
Vous allez où dans le sud?
On est allé, je suis déjà allé à Sospel, ça c'est juste derrière Menton, tu vois, un peu une vallée au pied du Turini. Après, j'aime beaucoup aller dans le Ventoux, la Drôme, là, les deux dernières années, on est allé vers Buis les Baronnies, là où il y aura les championnats de France cette année. C'est vraiment sympa, le Ventoux c'est quand même globalement sympa pour s'entraîner, c'est pas complètement le sud. Après tu vois là, avec Brooks on est allé à côté du circuit du Castellet, donc pas loin du massif de la Sainte-Baume. Mais globalement dès que tu passes on va dire Montélimar, tu vois, à peu près au niveau de latitude, c'est quand même des conditions d'entraînement meilleures, il fait quand même relativement doux. Après le meilleur spot d'entraînement dans lequel je suis allé, j'y suis allé deux fois, c'est Tenerife, quoi. Tenerife, au mois de février, tu roules en short, t-shirt.
Mais oui, il y a beaucoup de training camps, justement, quel que soit le sport qui s'organise là-bas. Je vois beaucoup de vidéos passer.
Justement. Alors, t'as beaucoup le vélo, tu vois, parce que déjà, t'as l'altitude. Je sais pas si t'es déjà allé là-bas, c'est au pied du Teide. Le Teide, il est dans la caldeira, et bon, les équipes vélo, elles vont dans la caldeira à 2002, donc t'as le stress de l'altitude. Puis t'as des billards, et ces îles des Canaries, c'est des îles souvent à deux visages, c'est-à-dire t'as le côté qui prend un peu les perturbations, donc qui est un peu plus vert et moins agréable, et puis t'as le côté sud qui est semi-désertique. Et en fait, ouais, bah tu pars. Alors il y a des jours, ça peut arriver qu'il neige dans la caldeira, mais sinon tu pars sur le bord de la mer, il fait 25 degrés quasiment toute l'année, donc c'est génial. En février, tu pars de chez toi, les quelques fois t'as pu faire du vélo, bon, avec le réchauffement climatique, on peut de plus en plus faire du vélo toute l'année, mais tu pars, c'est tu mets t'es en long et tout, t'arrives là-bas, le truc le plus chaud que tu mets, c'est ton coupe-vent quand tu redescends à 2000 mètres d'altitude au mois de février. Donc c'est vrai que c'est quand même des conditions qui sont hyper sympas et qui baissent un petit peu la difficulté d'entraînement. Et moi je vois aussi beaucoup l'entraînement comme ça, c'est que si c'est très dur les conditions, bah ça te coûte mentalement, et du coup tu peux moins faire de charge physio parce que bah t'as beaucoup de charge mentale liée à aller dehors, quoi. Quand c'est des conditions difficiles.
Je reviens sur un peu ces sponsorings. Donc je reviens à 2016 a priori, quand t'as ton premier sponsor équipementier. Est-ce que t'as des obligations réseaux sociaux, tu vois, ou est-ce que t'as des obligations que de résultats, on va dire?
T'as des obligations de réseaux sociaux dans les contrats. Alors on a des contrats. Enfin moi je me suis jamais hyper penché, mais t'as des contrats. Alors moi à la limite j'avais un contrat entre guillemets pro, parce que je pouvais, enfin moi je vais dire pro, ça va te faire rigoler, mais on va dire allez, 20 000 de contrat, tu peux être pro, c'est tu tires un peu le diable par la queue, mais si ça t'anime, tu peux réussir à t'en sortir, quoi. Avec les autres petites sponsoring tu peux t'en sortir, mais on va dire on avait des contrats où il y avait des choses hyper carrées, mais genre c'est le même contrat, celui qui a 3 000 à l'année et celui qui a 100 000, tu vois, limite, c'est les mêmes lignes, parce que c'est les contrats faits par les avocats des équipementiers, c'est des grosses boîtes, donc c'est hyper carré. Mais moi, j'ai jamais été chez des sponsors où, genre, on venait te dire, là, il y avait 3 postes à faire, t'en as fait que 2, tu vois, ça a jamais été comme ça. Après, par contre, plus tu développes ta stratégie, ta communication sur les réseaux sociaux, et plus tu as quand même de la valeur, et plus au moment de renégocier ton contrat, oui, il y a la côté sportif. Moi, je pense que tu peux pas exploser en termes de valeur financière si t'as pas le sportif. Je pense qu'un des bons exemples récents, c'est Mathieu Blanchard. Il a quand même vraiment explosé au niveau de ses contrats. Je ne les connais pas exactement, mais de ce qu'on entend, quand même, le moment où il a fait deuxième de l'UTMB, où on a dit, ah ouais, le mec, il a une vraie légitimité sportive, tu vois. Pourtant, il venait, tu vois, il avait fait Koh Lanta, il avait déjà une communauté, mais la légitimité sportive, elle est indispensable. Par contre, que la légitimité sportive, si tu n'es pas du tout visible, ce n'est pas un sport qui est assez populaire pour que, tu vois, le Tour de France fait le champion, quoi. Je veux dire, le mec, personne ne le connaît. Jonas Vingegaard, personne ne le connaît. C'est devenu une star parce que tu gagnes le Tour de France. Nous, même si tu gagnes la plus grande course, la plus populaire de notre sport, qui est l'UTMB, si derrière, il y a zéro communication, ouais, bah, ça va marcher quelques temps, mais tu peux pas exploser en termes de valeur au niveau des sponsoring si tu n'as pas quand même une stratégie réseaux sociaux principalement derrière, quoi.
Ça, c'est un truc que tu as développé ou...
Pas vraiment, parce que ça m'a jamais trop animé. Donc moi, j'ai développé une autre activité pour on va dire le côté matériel, qui est le coaching, parce que ça m'anime plus.
Mais comment tu l'as développé? Parce que justement, t'es pas hyper visible sur les réseaux. T'as eu des résultats. Voilà, t'es connu, je pense, par tes résultats. Mais comment tu...
Alors après, déjà, c'est modeste en termes de nombre de personnes que je suis. Avec une stratégie quand même qui est pas du tout commerciale. C'est-à-dire que je pourrais gagner, je pense, 10 fois plus que ce que je gagne si j'avais décidé de suivre plein de gens dans des programmes plus automatisés. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le coaching, c'est vraiment la relation humaine. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de vouloir avoir pas trop d'athlètes. Et là, tu vois, j'en ai une trentaine. C'est déjà beaucoup, je trouve. Et donc, par contre, ouais, quand même, t'as un côté quand même quand t'es connu. Tu remplis hyper vite, tu vois. Là, moi, j'ai jamais trop communiqué vraiment que je faisais du coaching, à part un peu dans des podcasts. Et j'ai des demandes toutes les semaines, tu vois, sur les réseaux et tout. Donc, c'est assez facile. Après, par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ma compagne, elle fait aussi ça. Et par exemple, il y a plein de gens qui me contactaient et ça se convertissait pas du tout quand je les transmettais vers ma compagne, quoi. Tu vois, il y a vraiment le côté, ils veulent être entraînés par, je pense.
Moi, j'ai remarqué ça aussi. Hein.
Pour le coup, c'est par moi, mais de manière générale, tu vois, les gens, quand ils sont connus, ils veulent être entraînés par. Et après, je juge même pas, parce que finalement, si quelqu'un, parce qu'il est entraîné par une personne, ça permet de développer sa motivation, parce que je pense que ça peut pas être une motivation à long terme, ça permet de développer sa motivation, parce que moi, je crois beaucoup aux habitudes. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es entraîné 2-3 ans plus structuré, ben en fait, tu l'as développé, et puis finalement, peut-être tu t'es mis parce que tu as été entraîné par un tel ou un tel, et puis finalement, après, tu dis, oh ouais, c'est important, je me sens bien en faisant du sport, et tu vas continuer à le faire, mais ouais, moi, il y a quand même, après, j'ai été médaillé, j'ai fait 10 ans en équipe de France, donc tu vois, je suis devenu quand même une personne, même si je suis loin d'être le plus connu dans le milieu du trail, quand même, pas dans les gens qui suivent le milieu du trail, vu que ça fait quand même maintenant quelques années que je suis là-dedans, je suis assez connu par les gens qui suivent un petit peu. Et puis, l'autre chose qui a amené de la visibilité, alors que je pense moins pour moi, mais on l'a vu pour d'autres personnes qui sont dans le podcast de la bande AD+, ça crée de la visibilité. Par exemple, Sabine Ekström, qui est coach aussi, qui avait un peu du mal à remplir, alors que bon, elle est docteur et tout. Dès qu'elle a été présente et qu'elle a eu un peu plus de visibilité, bah, direct.
C'est quoi? C'est un podcast?
C'est un podcast, ouais, qui, en gros, c'est talk show du trail, un petit peu, on débriefe des sujets, 1 à 2 sujets par podcast. On est quatre, il y a des chroniqueurs, des experts de la discipline, des gens soit des gens encore qui sont pratiquants, soit des gens, il y a Thomas Lorblanchet, par exemple, qui a été un grand acteur, de la discipline. Et ça, c'est quand même pas mal écouté. Donc, ça crée de la visibilité. Puis, si tu veux coacher vraiment en personnel, tu vois, des gens, t'as pas besoin non plus d'avoir des dizaines de personnes, et c'est globalement, ça se remplit assez vite. Et puis, quand t'as la chance de pouvoir un peu trier les gens parce que t'es pas en train d'accepter n'importe quelle demande, bah, tu peux quand même tester aussi la motivation des gens. Et finalement, tu vois, ce que je disais l'autre jour, je sais plus où, bah, t'entraînes peu de débutants parce que t'as peu de turnover, quoi. Donc, potentiellement, tu peux prendre un débutant, mais une fois que ça fait un an que tu l'entraînes, bah, il est plus vraiment débutant. Et moi, ça tourne assez peu, mes groupes d'entraînement, parce que aussi, tu vois, j'ai des limites. C'est-à-dire que moi, en dessous de 4 fois par semaine, je considère qu'on s'entraîne pas, quoi. Donc, c'est un peu un de mes critères. Si tu me dis, c'est pour courir 2 fois par semaine. Moi, j'aime bien répondre, bah, va courir, quoi. Tu vois, avant de vouloir prendre un coach, je pense qu'il faudra quand même avoir un minimum d'entraînement. Je sais pas comment tu fonctionnes en musculation, mais.
Oui, moi, je demande 3 séances, ouais.
Ouais, tu vois, si le mec, il te dit, je vais faire une fois de la musculation dans la semaine, ouais, bon, bah, va à la salle, prends 2-3 tutos, mais tu vois, tu peux pas vraiment progresser à part le minimal. Mais au bout d'un moment, c'est basique, mais tu progresses pas vraiment par l'entraînement, c'est le stress. Et s'il y a toujours trop de récupération entre les stress, ben ton corps, oui, il s'adapte un petit peu, puis c'est terminé, quoi.
Parfois, j'ai l'impression qu'on a peur d'être fatigué, alors que la fatigue fait partie du jeu.
Ah bah, si t'as pas un certain niveau de fatigue, C'est qu'en fait, tu ne stresses pas ton corps au-delà de ses capacités.
T'es fatigué de rien, tu vois. Oui. Tu fais rien, t'es fatigué, tu dis, ah bah, j'ai pas à faire, je suis fatigué.
Oui.
En fait, ah bah, c'est pas toi quand tu entraînais 20 heures, t'étais fatigué. Moi, tu vois, là, aujourd'hui, je me suis pas encore entraîné, mais je suis déjà fatigué parce que j'ai fait de la route, j'ai fait des trucs. Et je me dis, oui, mais en fait, c'est normal d'être fatigué. Si t'es pas fatigué, c'est bizarre.
Oui, oui. Puis, tu vois, ce matin, par exemple, c'est un bon exemple, tu vois, vu que c'est récent, je pars à la séance, soit séance d'intensité, donc c'est sûr que ça va être dur. Je pars et tout, je cours 1 kilomètre à plat. Donc, tu sais, en trail, ce qu'il y a de particulier, c'est que t'as quand même la contrainte musculaire, tu vois. À plat, des fois, tu sens pas trop que t'es fatigué. Mais dès que tu montes, c'est quand même, t'as, il faut de la force et tout. Et là, souvent, tu sens si t'es bien ou pas, quoi. Et là, pour la première montée et tout, bien raide et tout, mais à 2 à l'heure, hein. Ouais, je me dis, bon, aujourd'hui, ça va être dur et tout. Et avant ça, ça me faisait psychoter en mode, je vais pas arriver à faire la séance et tout. Maintenant, c'est là, je vais faire la séance, puis on verra bien, tu vois. J'arrive, je fais mes gammes et tout, et je pars. On est vraiment pas si mal, tu vois. Et donc, du coup, si t'écoutes trop ton sentiment, ta fatigue et tout, de toute façon, si ton cerveau, tu lui dis, ah, t'es fatigué et tu renforces ça, bah oui, il va dire, ah ouais, t'es fatigué. Parce que bon, il y a un moment donné, le sport, pour progresser, faut que ce soit dur, hein. Un minimum, physiquement, tu peux pas progresser en dépensant jamais 3 de RPE dans ton corps. Ça fonctionne pas. Donc, à un moment donné, faut dépasser ça. Mais tu vois, ça s'entraîne, quoi. C'est-à-dire que, ce qui me rendait inconfortable avant, au début, quand j'ai commencé, tu vois, moi, je suis comme tout le monde. Ouais, séance d'intensité, tu psychotes 3 jours avant. Ouais, ça va être dur et tout. Et maintenant, moi, tant que mon corps, il me dit pas, voilà, physiologiquement, c'est dur. Je stresse pas par rapport au fait que c'est dur. Après, une fois que c'est dur, bah, c'est dur. Tu trouves des ressources mentales. Mais ça, oui, la fatigue, en plus du fait qu'avoir de la fatigue, c'est j'ai stressé mon corps. Il aime pas ça. Il va s'adapter. Comme ça, la prochaine fois, il sera moins stressé pour la même contrainte. Et puis, petit à petit, c'est comme ça que tu progresses, quoi. Il n'y a pas de raccourci, quoi.
Tout à l'heure, tu parlais de chaussures courte distance. On voit, je sais pas si on peut parler d'évolution, de changement de matériaux dans les chaussures qui ont l'air d'influencer positivement les performances sur le plat. Et est-ce que dans le trail, vous êtes confronté aussi à ça? Est-ce que les plaques carbone arrivent?
Ouais, il y a des technologies qui arrivent. Alors, on a beaucoup résumé l'évolution des chaussures à la plaque carbone, mais c'est vraiment la combinaison mousse et plaque, et notamment les mousses, et ces nouvelles mousses qui rebondissent vraiment, tu vois, enfin... Moi, j'adore quand les gens te disent non, mais les chaussures ne jouent pas sur l'évolution. T'as envie de dire aux gens, vous avez jamais couru, quoi. Enfin, je veux dire, moi, à un moment donné, je mets une paire de chaussures, je sais si elle court plus vite ou pas, tu vois. Ça... Alors, c'est pas de la science.
C'est la chaussure qui court vite, alors.
Mais, il y a vraiment, mais je veux dire, quand tu t'entraînes depuis des années, je vais prendre, par exemple, un truc basique, tu fais des 400, c'était des années que tu fais tes 400 en 1-10 tout le temps, tu vois. Et puis, je veux dire, un humain entraîné comme moi, c'est, je pense, plus précis que n'importe quel instrument de mesure, honnêtement. Si t'as pas de trop de fatigue, c'est vraiment précis. Enfin, moi j'ai des exemples de faire un footing de 1h30 en disant je fais telle zone d'intensité, je mets 1h30, la fois d'après je mets 1h30 et 5 secondes, tu vois, vraiment sans se minuter, tu vois, juste comme ça. Et j'en sais rien, par exemple, tu fais 1-10 au 400 depuis des années, tu mets une paire de chaussures, tu fais 1-8, le mec me dit c'est pas la chaussure, bah... c'est quand même le seul élément qui a changé, quoi, tu vois. Alors, je vais pas dire, c'est pas de la science, c'est pas une preuve, il y a pas... N égale 1, je vais pas dire, ça fait courir plus vite. Mais tu vois, aujourd'hui, tu vois l'évolution des paires sur marathon, mais tout le monde est plus fort. On te dit, c'est pas les chaussures. Ben, ok, un peu la nutrition, tu vois, mais qu'est-ce que ça peut être à part les chaussures? Moi, quand j'entends des gens qui ont un peu pignon sur rue te dire les chaussures, elles font rien, ben là, je me dis, mais j'espère que quand sur d'autres sujets, ils sont plus calés, parce que moi, ça me met le doute, quoi. Je veux dire, tout le monde, quand tu vois le milieu, et puis tous les gens qui en mettent, tous les gens qui courent depuis des années, qui font des chronos, qui stagnaient, ils mettent ces chaussures là, bam, ils font 2 minutes 30 de moins. Mais comment tu peux expliquer autrement que par ça? Et ce qu'on voit beaucoup, tu vois, sur la chaussure, c'est aussi que ça a permis sur la transition du marathon, biomécaniquement, tu vois, avant ce qu'on appelle le mur du marathon, je pense qu'il y avait un peu de l'énergétique, mais il y avait aussi, tu vois, le fait d'être biomécaniquement pas prêt à ces distances-là et qu'il fallait du temps pour se préparer à la distance, il fallait du temps pour pouvoir faire des semaines d'entraînement qui permettaient de t'adapter à ça. Mais aujourd'hui, avec ces mousses qui permettent de faire beaucoup plus de volume d'entraînement, alors peut-être que ça va faire sortir d'autres pathologies, hein, ça, on n'a pas trop de recul là-dessus, mais moi je pense que ouais, tu mets une chaussure de trail oversize avec des gros amortis, tu fais une descente longue avec une chaussure minimaliste et avec une chaussure qui a de l'amorti, bah direct tu dis ah ouais, non mais quand même, en termes de confort. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit sortir sur l'ultra notamment, c'est des mousses plus épaisses, quoi. Après, en trail où c'est moins évident, c'est que c'est pas simple d'avoir des mousses molles qui rebondissent, mais qui sont pas trop instables quand il y a un peu du dévers. Donc il y a encore pas tellement de chaussures qui ont mis des grosses mousses. Mais nous, par exemple, la chaussure dont on parlait qui va sortir, la Catamount Agile, ce qui a vraiment changé, c'est la mousse. Et on a eu une version avant qui était avec les anciennes mousses, mais qui avait une géométrie qui ressemblait vraiment. Quand on a eu les nouvelles mousses, bah, direct, tu mets la chaussure. Enfin, tu mets les deux, surtout. Tu vois, tu cours avec la première, tu mets la deuxième. Ah ouais, là, c'est pas. Mais c'est comme, j'en sais rien, tu fais du VTT avec un VTT qui a juste une suspension à l'avant, puis après tu prends un VTT tout suspendu et tu vas faire une descente et tu dis ah ouais, là, c'est pas la même chose. C'est un petit peu ça l'évolution. Après, là où je suis plus modéré, c'est que par exemple, ces chaussures font moins travailler le pied, par exemple. Donc, si tu cours, moi, c'est le ressenti que j'avais eu quand j'ai couru plusieurs années. Chez Oka, j'avais l'impression que mon pied, j'avais posé pas assez de travail de pied à côté. Mon pied était devenu feignant et il a fallu que je remette des chaussures plus minimalistes pour refaire travailler mon pied. Mais si tu travailles, faut vraiment prendre le vélo, c'est un bon exemple. C'est que si tu apprends tout de suite à un vélo très suspendu, tu vas pas apprendre la technique pour bien prendre les bonnes trajectoires parce qu'en fait, tu peux passer n'importe où. Le vélo, il va tolérer. Si tu prends un vélo, limite, enfin, je sais pas si t'as connu les VTT, il y a même pas de suspension. Si t'en as fait un petit peu quand t'étais jeune. Bah là, si tu mets pas la roue exactement au bon endroit et que tu essayes de sauter le caillou, tu t'éclates. Bah, s'entraîner avec un truc qui est plus exigeant, ça te permet de développer des capacités qui, une fois que tu mets une autre chaussure ou un autre vélo, va te permettre de faire plus de performance. Moi, je vois vraiment la chaussure aujourd'hui comme un facteur et un levier de performance, quoi. Donc, pas être obligé de l'utiliser tout le temps non plus, quoi.
C'est quoi la différence entre une chaussure courte distance et longue distance?
Souvent, c'est quand même plutôt le confort. Le dynamisme.
C'est quoi le dynamisme?
Bah, le dynamisme, c'est comment la chaussure va se comporter, tu vois, à haute vitesse, comment elle va réagir, comment elle va te renvoyer. T'as des chaussures, en fait, si tu prends une chaussure qui est très amortie, souvent, alors c'est moins le cas maintenant avec ces nouvelles mousses, mais souvent, tu vois, si tu prends une chaussure très confort, elle est très confort, mais c'est un peu comme un VTT avec des gros pneus. Quand tu vas aller sur la route, tu vas dire, waouh, ça se traîne, tu vois, ça avance pas par rapport à un vélo de route. Par contre, quand tu vas passer un Dodane, avec ton vélo de route, ça te secoue quand t'es gonflé à 7 barres. Si tu passes avec ton VTT, avec des gros pneus, bah, tu te sens limite pas le Donan, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose. Et le truc, c'est que quand tu fais des courtes distances, ton but, c'est d'aller le plus vite possible. Le fait que la chaussure, elle soit pas hyper confortable. Alors, idéalement, si elle est confortable, c'est mieux, mais qu'elle soit pas hyper confortable, toi, ce qui compte, c'est est-ce qu'elle est précise aussi, tu vois. Par exemple, quand tu descends très vite, quand t'as des mousses épaisses, tu sens pas bien le sol, donc du coup tu vas pas réussir à être aussi précis pour poser tes pieds. Donc en fait, une chaussure pour de la courte distance, faut qu'elle soit relativement précise, assez dynamique sur les parties roulantes, parce que bah plus c'est court, plus tu cours vite. Après, t'as d'autres éléments, entre elles, c'est l'accroche. Ça, c'est pas toujours évident d'avoir une seule accroche pour tous les types de terrain, parce que après il y a aussi ça c'est ma vision, mais par exemple, les besoins de l'élite, c'est pas du tout les besoins d'un produit grand public. Et ça, c'est toujours un débat avec les équipes de développement. Est-ce qu'il faut faire une chaussure grand public utilisable par les athlètes élites, ou est-ce qu'il faut faire des produits plutôt proto, entre guillemets, adaptés à l'athlète élite pour ses besoins, quoi. Et là, t'as deux visions qui s'affrontent. T'as le côté performance qui dirait ouais, faut plutôt faire des protos, et le côté market, et c'est quand même souvent eux qui dirigent quand même, parce que si tu veux pouvoir avoir des, enfin, si tu veux pouvoir acquérir des contrats de sponsoring, faut quand même vendre des chaussures. Eux vont te dire, ouais, non, mais attendez, les gars, avoir des chaussures que personne peut avoir, ça marche pas. Donc là, bah, souvent, soit ils font des chaussures, ça dépend des marques, mais soit ils font des chaussures avec des produits, enfin, des morceaux de chaussures où on sait pas trop si c'est une chaussure de la gamme ou pas. Mais aujourd'hui, l'évolution, c'est plutôt d'aller quand même vers des chaussures. Alors là, par exemple, la chaussure dont on parlait, ça a été plutôt co-développé avec les athlètes chez Brooks pour faire un produit plutôt courte distance. Mais ça reste un produit qui est fait pour un peu la notoriété de marque de la gamme. Mais tu vois, c'est tu la donnes à un magasin, ils te disent ouais, génial la chaussure, mais ouais, je vais t'en prendre 10. Mais tu vois, c'est pas ça du tout qui fait vivre le magasin, c'est du produit niche. Mais voilà, t'as un mec un peu compétiteur qui vient dans un magasin, bah t'as cette chaussure-là, mais c'est pas du tout ces chaussures-là qui vont faire, j'en sais rien, si ça fait, j'ai pas trop les chiffres en tête, mais si ça arrive à faire je sais pas, 2% des ventes de la marque, ce sera le max parce que c'est trop un produit niche et qui s'adresse à trop peu de personnes. Parce qu'après, une chaussure rapide, il faut aussi avoir le pied nécessaire et la plupart des gens, ils peuvent pas mettre ces chaussures-là. C'est pas adapté à eux. Donc, tu ressors vraiment ça pour les athlètes élites et pour avoir un peu le produit phare, quoi. C'est un peu comme le vélo, tu vois, le haut de gamme à 15 000 euros. Bon, les gens, ils l'achètent, mais souvent, c'est pas du tout le vélo le plus adapté à leur pratique, quoi.
Mais ils l'achètent quand même, des fois.
Ils l'achètent, mais après, tu vois, le problème, c'est quand t'es sur des produits très haut de gamme comme ça, c'est un peu comme avoir une belle voiture. C'est un marqueur social, un peu, quoi.
J'arrive au bout de mes questions, Nico. Est-ce que toi, t'as des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé?
Non, pas particulièrement.
Mais est-ce que ça se dope dans le trail, tiens?
Alors, je vais te donner mon avis.
Est-ce que tu veux me donner des noms?
Eh ben, tu poses des bonnes questions. Je suis absolument convaincu que ça se dope dans le trail. Je vois pas pourquoi ça se doperait pas. C'est pratiqué par des humains. Donc, ça, c'est des années que je le dis. Après, je suis incapable de donner, alors que ça fait longtemps que je suis dans le milieu, le nom de quelqu'un qui se dope, quoi. J'ai jamais vu de comportement de gens qui prenaient des produits. Je sais pas si t'en as vu en musculation. Après, moi, souvent tendance à dire que souvent tu t'associes à des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Donc, soit si tu triches pas, c'est rare que tu sois associé à des gens qui trichent. Mais bon, je pense que ça devient un sport qui se développe et où il va y avoir commencer à avoir, je pense qu'il y a plein de motivations dans le dopage, mais il y a quand même, moi, c'est ma vision personnelle. Je sais pas si, enfin, moi, ce qui aurait pu me conduire un jour au dopage, ça aurait été que le matériel, tu vois, que le côté, ça va changer ma vie matériellement de me doper, tu vois. C'est pas du tout me doper pour être meilleur que les autres. C'est juste, j'en sais rien. Demain, on arrive, on te met 10 millions sur la table en disant, j'en sais rien. Tu vois, je fais un sport comme le vélo, tu vois, où il y a eu ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu des gros contrats. T'es un jeune athlète, t'es pas complètement mature dans ta tête. Il y a des énormes enjeux et il y a cette tentation. Je sais pas comment les gens, comment tu te comporterais, comment je me serais comporté à 20 ans face à ça. Et du coup, dans le trail, commencer à avoir un peu plus de matériel. Donc, je pense cette attirance-là. Après, t'as aussi des gens, t'as des gens qui trichent au Monopoly, t'as des gens qui trichent pour battre leurs potes. Donc, en fait, ils trichent pour faire du trail, quoi, parce que c'est comme ça et qu'ils acceptent pas leurs limites, quoi. Après, moi, le problème de se doper, c'est qu'en fait, vu que c'est l'exploration de mes limites, le moment où tu viens booster ces limites, ça perd beaucoup de son sens. Mais tu vois, on a parlé des chaussures. Maintenant, tout le monde court avec des chaussures modernes. Mais il y a un moment donné, tu vois, t'as des gens, par exemple, sur 10 km, c'était la barrière des 30 minutes. Leur objectif de vie, entre guillemets, de la course à pied, c'était faire moins de 30 minutes au 10. Le gars, il a fait, j'en sais rien, 30-10. Il y avait un mec, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui était un peu journaliste, qui disait, non, moi, je fais 30-10 avec des chaussures classiques. Je sais très bien que si je mets des carbones, je vais faire moins de 30. Mais en fait, ma quête, c'est de faire moins de 30 sans mettre ces chaussures-là, tu vois. Et donc, du coup, je pense qu'il y a, enfin, le dopage, ça casse cette quête-là et c'est ce qui préserve le plus, je pense, de ces déviances-là, c'est d'avoir un truc profond en toi qui fait que, si tu triches, ça n'a pas plus de sens, quoi.
Nico, si des auditeurs veulent te contacter, comment font-ils?
Là où je serai le plus
actif,
le plus actif, c'est sur Instagram. Je sais même plus comment c'est Nico Martin Trail. Je crois que c'est des tirés du 8 entre.
Bon, on tape Nico Martin.
Ouais, voilà, Nico Martin. Faut mettre Trail quand même, parce que Nicolas Martin, il y en a quelques-uns. Mais voilà, j'ai passé récemment, grâce à mon pote Mathieu Delpeuch, les 10 000 followers. Donc,
t'es une célébrité, ça y est alors.
Ouais, je crois que c'était le moment avant où tu
pouvais mettre des stories avec des liens.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est plus le cas, mais. Voilà, ça, après, sur les réseaux, comme on commence à être vieux, j'ai encore actif sur Facebook. Là où je me dis que ça commence à craindre, c'est que j'ai plus d'interactions souvent sur mes posts Facebook que mes posts Instagram. Et là, je me dis, c'est que tu vieillis, quoi. mais voilà, après, ça, je suis assez réactif quand même sur Instagram si les gens me posent des questions. Et globalement, je fais partie des gens qui sont pas encore trop sollicités et je réponds la plupart du temps aux gens et aux questions qui me posent sur les réseaux sociaux.
Et ça marche. Et merci Nico de ton temps.
Merci à toi Rudy.
Et puis j'imagine que tu vas faire un sauna pour ta récup maintenant.
Ouais, pour le stress environnemental.
Salut à tous.
À plus.
Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.